Bonjour à tous. Donc on se retrouve pour une nouvelle émission de Psychodébat, comme tous les jeudis à 18h. Donc dans un premier temps, Psychodébat, c'est quoi? C'est une grande discussion sur des thèmes différents. Donc ça peut être le bonheur, la solitude, où tout le monde parle. C'est une petite table ronde où tout le monde s'exprime et partage un peu ses solutions partage aussi ses anecdotes et permet aux gens d'être pleinement soit diverti ou d'apprendre des choses. C'est un peu le but de cette émission. Avant, elle existait en physique et donc les gens se rassemblaient et permettaient de se voir et de partager un peu leurs idées. Et on souhaiterait le refaire très prochainement, mais pour l'instant c'est une émission de radio à laquelle vous pouvez appeler au 04 91 08 28 10. Et le thème du jour sera les jeunes face au climat. Donc nous, là, autour de la table, je laisserai après les gens se présenter, mais c'est un thème qui nous tient particulièrement à cœur. Il s'inscrit parfaitement dans l'actualité, parce qu'on est à quelques jours d'un grand événement pour le climat, la COP30, qui va réunir plus de 50 000 personnes venues de 197 pays différents. Qui vont parler et voir les actions qui peuvent être faites pour le climat. Mais on va en parler aussi beaucoup plus en détail au cours de cette émission, donner notre avis. Cette émission, pour nous, elle est importante parce que la voix des jeunes, je pense que dans la plupart des sujets, c'est une chose à mettre en avant et surtout à appuyer parce que c'est un peu l'avenir qui se joue et les acteurs et aussi ceux qui auront les plus grandes répercussions des actions qui sont faites à l'heure actuelle. On peut notamment compter que presque 80% des jeunes s'intéressent au changement climatique, donc de différents ordres. On verra aussi quelle position ont les jeunes face au climat. Est-ce que c'est vraiment de l'observation inquiète, des acteurs, être un activiste ou pas, comment se sentir un peu démuni. On abordera plusieurs échelles au cours de cette émission, donc l'échelle personnelle, comment on se sent, mais aussi qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce sentiment. C'est surtout ça, je pense, que cette émission se concentrera sur l'action quand les jeunes face au climat. On peut aussi voir l'impact que ça a sur la jeunesse. On compte 67% des jeunes qui se posent la question de l'impact de l'environnement dans leur emploi. C'est peut-être des questions qu'on ne se posait pas avant et c'est intéressant de voir comment les choses évoluent, pourquoi elles évoluent, qu'est-ce qu'on observe autour de nous, mais aussi partir de la racine, partir de l'éducation des jeunes, de savoir est-ce que c'est vraiment une chose qu'on nous fait miroiter, l'engagement des jeunes dans cette cause beaucoup plus, très importante. Et on va voir aussi du coup la sensibilisation, c'est une chose très importante je pense aussi de se concentrer sur comment la jeunesse est perçue par aussi les autorités et les gens compétents dans les différents domaines. Et donc pour parler de ce sujet donc des jeunes face au climat, on a des jeunes autour de la table, on peut le dire, qui sont pleinement dans ce domaine-là. Donc je vais laisser Asna dire bonjour.
Bonsoir à tous.
Et Angelina.
Bonsoir.
Donc merci d'être là avec nous ce soir et on laissera aussi les gens appeler pour pouvoir aussi partager soit des questions sur le climat, les jeunes et moins jeunes, tout le monde est le bienvenu pour s'exprimer sur ce sujet parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. Mais aujourd'hui on voulait vraiment parler de ce point de vue-là, surtout qu'en plus d'être des jeunes totalement en cœur du climat, on fait partie d'une association. Et on a même une vision des beaucoup plus jeunes que nous. Hein, même si on est jeune, il existe aussi des très très jeunes. Et donc ça permet aussi de voir à travers les générations comment cette question du climat aussi, voir la vision qu'on peut avoir des différents aspects. Parce que le climat, ça englobe un large sujet. Donc je pense qu'on va commencer dans un premier temps à parler de comment chacune de nous, dans l'enfance, a été sensibilisée. Est-ce que vous avez eu l'impression que ça a eu une grande place, par exemple, dans l'éducation que vous avez pu recevoir à l'école, ou pas du tout? Et est-ce que vous avez pu observer un changement? Donc, je vais d'abord vous laisser vous exprimer, et m'exprimerai sur la question, juste après votre témoignage. Donc, Angelina, je t'en prie.
Alors, moi, quand j'étais enfant, j'ai grandi à la campagne, Du coup, il y avait toujours ce rapport à la nature qui était très présent. Par exemple, on avait un potager. Quand on jouait, il y avait un terrain à côté de notre école où, en fait, c'était un énorme terrain juste d'herbe où des fois, on avait le droit d'aller jouer et c'était génial. Mais par contre, on n'avait pas trop de... Enfin, je me rappelle pas avoir eu des cours ou quoi sur le changement climatique ou sur... l'importance de préserver la nature ou des choses comme ça. C'était plus une sensibilité un peu sous-jacente et permanente, quoi, dans le cadre de où j'étais quand j'étais petite, etc., quoi. Et après, c'est plus du coup au collège où c'est né cette sensibilité à l'environnement et à la cause climatique, parce que du coup, c'est là où on a les premiers un peu cours sur les enjeux climatiques, voilà.
Ok, donc tu l'as vraiment senti cette bascule à partir du moment où t'es passée à un niveau supérieur dans l'éducation. Et toi, Asna ?
Alors, moi j'ai grandi dans une petite ville, donc petite école primaire aussi, mais on était vachement engagés écologiquement parlant. On avait un potager commun qu'on faisait ensemble entre les classes et avec les professeurs. On avait beaucoup de sorties éducatives là-dessus, on avait beaucoup d'intervenants. Donc, au niveau scolaire, ça a commencé dès la primaire là-dessus, sur les plastiques en forêt, les plastiques sur le littoral. Pareil sur manger local. On a eu beaucoup de ces choses-là dès la primaire. Après, ça s'est concentré plus changement de climatique au niveau du collège. Je pense qu'on a eu un grand boom à ce niveau-là aussi. Pareil, on avait toujours beaucoup d'interventions, les professeurs étaient toujours très engagés, surtout en SVT. Et après, au lycée, ça a continué, et j'ai continué dans une filière scientifique. Donc ça fait qu'on en a toujours parlé là-dessus, j'ai toujours ressenti, en tout cas au niveau scolaire. Mais après, j'avoue qu'au niveau familial, la question du changement climatique, c'était un peu un sujet au détour d'un café. C'est pas très important.
Ok, d'accord. Oui, moi aussi, je pense que j'ai un peu une chose. Enfin, c'était assez similaire, mais moi j'étais dans une grande ville, mais dans une petite école. Je pense que c'est ça aussi qui a fait changement, parce que j'ai vu d'autres témoignages de gens qui avaient à peu près mon âge et qui étaient dans d'autres écoles beaucoup plus grandes, qui justement n'avaient pas l'opportunité d'avoir des activités aussi encadrées. Mais moi j'avais beaucoup d'activités en forêt, j'ai fait des classes vertes, où on avait une sensibilisation extrême à la nature, aux animaux, à la faune et flore sauvage, à la conservation. On allait aussi dans des refuges, etc. Donc je sais que moi, c'était plus mes professeurs dans la petite école où j'étais qui avaient à cœur de transmettre cet intérêt pour le climat et pour la nature en général. Et je sais que j'ai eu la chance. Moi, c'est un peu un commentaire qu'on m'a fait aussi étant enfant, c'était que j'étais dans une école un peu de hippie. C'était un peu le partage que j'avais autour de moi, mais j'ai senti l'importance que j'ai eue pendant l'enfance de ce sujet-là a eu un impact plus ou moins direct sur la vision que j'en avais directe, même en rentrant au collège. Là, on en avait beaucoup plus en cours, donc c'était intégré directement dans l'apprentissage des choses qu'on avait à faire. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant de dire que c'est vrai qu'en primaire, on en parle, mais c'est pas forcément intégré dans le programme scolaire. On a beaucoup de notions, etc. Mais après, je pense que les choses ont évolué depuis le temps où on était en primaire, je l'espère bien. Mais c'est vrai que ça a pris du temps à s'intégrer directement dans le programme éducatif, et c'était plus à la volonté du prof, c'est-à-dire que si le prof voulait faire l'impasse dessus, il avait la possibilité de le faire, alors que je pense que c'est un sujet qui doit pleinement faire partie du contexte éducatif, même si c'est compliqué, mais on le sait actuellement dans l'éducation nationale, d'avoir des cours totalement complets partout et équitables pour tout le monde. Je pense qu'on va parler aussi beaucoup d'équité sociale au cours de cette émission, parce que tout se rejoint au final. Hein. Les problèmes climatiques, ils ne peuvent pas être dissociés du problème social. Et je pense que aussi c'est là que je peux le ressentir, parce que moi aussi, j'ai eu des témoignages de gens qui étaient dans des écoles aussi plus précaire, parce que par exemple je parlais du fait d'aller en classe verte, de rencontrer des gens qui avaient un métier directement lié avec un impact écologique positif, etc. Je pense que c'est des moyens et des financements aussi que les écoles mettent ou pas en place. Et quand tu te retrouves avec beaucoup d'élèves dans un établissement précaire, c'est des choses qui sont compliquées à mettre en place si elles, en plus, ne sont pas obligatoires. Je pense que déjà, on a le taux d'alphabétisation et monter nos notes en mathématiques. Et du coup, il y a la priorité qui se fait. Mais je pense que tout devait être mis sur un même plan et que les choses devraient se faire directement de là-haut, en fait. Je pense que c'est ça aussi la problématique, c'est que quand c'est rendu obligatoire, ça doit être fait. Donc c'est beaucoup plus simple d'avoir un bagage commun. Et ça pourrait pallier justement à la sensibilisation à la maison. Parce que c'est vrai qu'on en parle, mais c'est pas la priorité de tout le monde. Nous, autour de cette table-là, on a nos idées, et nos connaissances sur le sujet. Et on a l'impression aussi, comme on s'entoure de personnes qui ont ces connaissances-là, que tout le monde est totalement ouvert, même si je pense que tout le monde a des notions, on ne peut pas être aveugle. Mais c'est compliqué de vraiment avoir tout le monde sensibilisé de la même manière. Et je pense que c'est important de le mettre en place très tôt dans l'éducation. Moi, je voulais dire, on évolue un peu dans le temps. Maintenant, est-ce que vous avez l'impression, hormis vous-même quand vous allez chercher l'information, que c'est facile en tant que jeune d'être sensibilisé à des causes, et là, le climat, plus exactement?
Alors, je dirais que c'est sûrement beaucoup plus facile que ça l'a été à une période. Je sais pas, j'imagine dans les années 90, quand il y a eu la première conférence mondiale sur le climat à Rio, et bah, je pense que ça a été très médiatisé, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc c'était pas la même forme de médiatisation. Si tu voulais changer de chaîne, bah, tu pouvais. Alors que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, si ton algorithme fait que tu vas avoir des informations d'actualité dans ton fil d'actualité, bah, en fait, tu vas forcément être exposé à des actualités en lien avec le climat. Et du coup, être quelque part un peu sensibilisé, même si peut-être que tu vas pas chercher plus loin que cette première information que tu as en face de tes yeux, bah, y a quand même, je pense, une exposition plus large déjà, de base. Après, voilà, c'est libre à chacun aussi d'aller s'informer si ça intéresse ou pas, mais je pense que oui, c'est quand même plus facile même d'aller trouver les informations. Il y a tellement d'écrits, tellement de choses, de ressources qui ont été publiées depuis, que en vrai, c'est quand même vachement accessible aujourd'hui, quoi.
Et toi, Asna, c'est quoi ton avis sur la question de l'accessibilité, et est-ce que tu penses que les jeunes utilise cette... Juste fait ça aussi.
Alors, moi, j'ai eu la chance d'interviewer plusieurs jeunes dans un cadre pour savoir leur rapport avec l'environnement et l'écologie. Et je me suis rendu compte que malgré l'accessibilité, parce qu'on a toutes les réseaux sociaux, on a les centres, les moteurs de recherche, on pourrait tout trouver, ils font pas l'effort de faire la recherche si leur algorithme ne leur montre pas, et donc l'information n'est pas imposée à eux. Donc même si c'est accessible, ils sont pas conscients. Il faudrait, alors que nous, quand on était plus jeunes, ça passait à la télé, sur tous les journaux, à la même heure. Tu pouvais changer d'une chaîne à une autre, il y avait quand même le journal et ça parlait de la même chose. Donc c'était une information qui nous était imposée, je trouve. Et nombreux des jeunes que j'ai pu interviewer me disaient qu'ils manquaient de sensibilisation parce que la sensibilisation n'arrive pas à leur plateforme, mais c'est juste qu'ils ne cherchent pas les bonnes choses. Et il faut chercher justement pour avoir un bon algorithme qui te sensibilise et qui te touche même de loin aux enjeux climatiques.
Ouais, ok. Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est une problématique parce que l'information est là. On a tellement de recherches qui ont été faites depuis des années, même à l'époque où les gens étaient pris pour des savants fous. Parfois, on ne se rend pas compte que les recherches sur la cause environnementale, elles sont faites depuis très longtemps. C'est juste qu'avant, elles n'étaient pas autant mises en avant. Et donc, elles sont très poussées. On a des choses aussi assez simplifiées. On a de la vulgarisation qui est faite en long, en large et en travers. Et c'est vrai que quand tu es habitué à avoir ça, ben, tu te retrouves avec cette information. Ben, dans les solutions que je pourrais voir, c'est ben, créer des événements où justement tu es obligatoirement confronté. Moi, par exemple, cet été, j'ai fait pas mal de festivals. Je ne sais plus parler français, mais du coup, j'ai fait pas mal de festivals musicaux et il y avait plein de stands entre les jeux et les artistes qui passaient, soit de sensibilisation, soit de cause, soit de choses où on pouvait de trucs d'information sur la sensibilisation ou sur vraiment des actions qui peuvent être faites, soit dans la ville, soit dans le pays, ou participer à des causes beaucoup plus grandes. Et donc je trouve que c'était intéressant parce qu'il y avait parfois des trucs ludiques, il y avait des jeux pour gagner une gourde et après tu devais connaître une information particulière. Il y avait tout un truc qui amenait les gens à venir regarder ces stands-là. Et même moi, je me disais, bon, ben, tu viens au festival pour écouter de la musique à la base, donc peut-être que tu ne vas pas passer le temps d'aller dans les stands. Mais je trouve qu'il y avait des bonnes pauses qui étaient faites. Et donc, ça a créé un émoi autour de ces stands-là. Et je trouve que ben, créer cette accessibilité, après, tu te retrouves à scanner un QR code qui t'amène vers une page sur un réseau social qui, justement, va changer ton algorithme. Mais je pense que c'est vraiment recentrer les choses dans la vraie vie. Et après, à amener les jeunes à avoir ça dans leur quotidien eux aussi après, même si après ça devient une page que tu suis par là, ben ça changera quand même ton algorithme. Donc je pense que c'est important de réancrer ça dans la vraie vie. Comme tu disais, tu as pu rencontrer des jeunes à SNA par exemple, ben c'est même dans des rencontres comme ça avec des jeunes où on leur pose la question, peut-être que c'est une idée qui peut émerger plus tard et je pense que c'est intéressant de se poser sur ça. D'ailleurs, moi, je trouve ça toujours intéressant de parler de la sensibilisation des plus jeunes, parce que c'est vrai que dans la cause climatique, on s'intéresse beaucoup à savoir qu'est-ce qu'on va laisser comme terre à ces jeunes-là. Mais la question qu'il faut se poser aussi, c'est à qui ? Et donc, sensibiliser les jeunes, c'est un peu répondre à cette question de qui va hériter de cette terre-là et être conscient des connaissances qui sont vraiment mises à disposition pour ces jeunes-là. Et oui, donc la solution pour moi aussi, c'est d'ancrer ça dans le réel. On parle souvent du digital, mais quand tu vis un truc, un événement, que tu le repartages, ben, on voit un stand qui dit « Ah, c'est génial le climat, ah, peut-être que je vais y repenser la prochaine fois. » Et oui, je pense que vous, du coup, vous avez tout le temps la question du climat, qui revient dans la plupart des aspects de votre vie ou pas du tout
Si. Bah, en fait, pour moi, c'est vraiment... j'ai l'impression que depuis le collège ou le lycée, c'était genre... Mon but dans la vie, c'était de répondre à cette problématique. Alors, aujourd'hui, forcément, j'ai un regard beaucoup plus nuancé sur la question et j'aimerais y contribuer. Au moins sur un aspect, et j'ai fait en sorte d'orienter mes études vers ça. Après, du coup, c'est vrai que, que ce soit dans mon alimentation, que ce soit dans ma façon de consommer, que ce soit de consommer, genre acheter des objets ou des vêtements ou quoi que ce soit, j'ai toujours un peu comme un petit diable qui me parle et qui me dit « Non, pas ça, ça, ok. Ça, je sais pas, il faut que je me renseigne. » Et en fait... des fois, c'est vrai que c'est un peu un poids, parce que l'ignorance, du coup, ça fait que, par exemple, je vais pouvoir acheter un truc et me dire, bon, je sais pas si ça va ou pas, mais je me dis, je le fais quand même, et puis on verra plus tard, quoi. Mais c'est super dur, en vrai, on pourra toujours essayer d'être le plus... écolo possible et ça sera jamais suffisant, donc je fais de mon mieux, mais c'est sûr que c'est une grosse partie de mon quotidien, quoi.
Le fait d'ignorer certaines choses, ça peut être déculpabilisant, parce qu'il y a beaucoup ce truc de culpabilité dans la justice environnementale, et je trouve que c'est pas l'approche la plus simple qu'il faut avoir envers les gens. Et plutôt que de pointer quand quelqu'un fait mal, je trouve que c'est plus simple de pointer quand on fait bien. Et c'est vraiment ça. Si y a un truc dans ton quotidien où tu ne déroges pas, ben ce sera ça. Et si pour toi. Enfin, je trouve qu'il faut mettre en avant plus les actions qui sont faites plutôt que les manquements, sans pour autant ne pas féliciter les manquements aussi. Mais
oui.
Je trouve que, surtout pour l'individu, alors, je ne parle pas genre, des grandes instances, on en parlera plus tard, on parlera un peu plus, comme on parle dans le cadre de la COP, je pense qu'on va en parler aussi. Mais oui, je trouve qu'il faut enlever cet aspect culpabilisant. Là, je vais citer un chiffre, par exemple, mais on compte plus de 60% des gens qui ont un comportement assez fataliste et qui ont conscience d'une urgence par rapport au climat. Et je trouve que rendre le truc très culpabilisant, ça aggrave ce sentiment de culpabilité. Mais il faut aussi rendre conscience. Il y a ce biais-là. Est-ce que vous avez l'impression qu'il se fait ou alors que la communication qui est faite sur le climat, elle est vraiment très urgente? Enfin, très fataliste, du coup.
Moi, je pense que la communication sur le climat est très fataliste parce qu'ils sont toujours dans le rouge. Ça ne va pas. On est sur une pente descendante, elle est raide, il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de bien. C'est que du négatif sur du négatif sur du négatif, de ce que j'en vois, en tout cas. Et on ne dit pas vraiment les bonnes actions, en tout cas, dans les médias.
Ouais.
C'est le ressenti que j'ai et mon entourage aussi, car ils se disent, à mon échelle, ils me disent ça, mais qu'est-ce que je peux faire? Genre, je peux pas agir vraiment là-dessus.
Et pour vous, du coup, moi, je trouve c'est compliqué, parce qu'il faut être réaliste. Et c'est vrai qu'on tire une pente descendante. Enfin, c'est pas un mensonge, c'est pas une aggravation de la situation, carrément. Mais c'est vrai que c'est compliqué de que propager que du négatif. En même temps, on est dans une époque où on est dans du sensationnalisme. Et c'est que quand ça va mal qu'on parle. Donc c'est compliqué de relayer une information qui est juste bien. C'est pas celle qui fera le plus de buzz, justement. Et c'est pas celle où les gens seront le plus exposés. Quand il y a une découverte scientifique géniale qui peut... c'est pas celle-là qui sera la plus relayée.
Oui.
Et donc c'est vrai que c'est compliqué de faire la part des choses sur cette question-là. Et même, du coup, de laisser les jeunes se forger une opinion de leur côté et de grandir aussi dans un espace qui leur permet de se forger une opinion. Ton avis, Angelina, sur...
C'est vrai que, en fait, je trouve qu'il y a vraiment une dissonance entre le discours de tous les médias, que ce soit les réseaux sociaux ou la télé, où il y a vraiment cette urgence, etc., qui est... vraiment lâché sur toute la population, quoi, et où on a l'impression que c'est nous qui sommes responsables de tout ce mal. Et en même temps, mais du coup, nous, on se sent quand même assez impuissants. Alors oui, on peut faire des choses à cette échelle, enfin, à notre échelle, on peut faire le tri, on peut consommer de manière un peu plus raisonnable et un peu plus raisonnée, et voilà. Mais, faut pas oublier que quand même, ceux qui ont tout le pouvoir de faire changer les choses, mais de manière drastique, c'est ceux qui sont à l'Assemblée. Et pour le coup, j'ai l'impression que le discours, du coup, il est toujours un peu culpabilisant envers les mêmes personnes et que les personnes qui vont être les décideurs et ceux qui vont permettre ou pas à ce qu'il y ait des lois qui permettent un changement, ceux-là, ils sont un peu toujours... on en parle dans certains médias engagés, mais je sais pas comment dire, ça reste...
assez niche et pas assez démocratisé dans...
C'est surtout que du coup, on a toujours l'impression que c'est sur la population que la responsabilité doit tomber, alors que non, enfin... Oui, il y a une part de responsabilité, mais c'est mineur par rapport à tout ce qu'il y a à faire pour qu'il y ait réellement un changement, quoi.
Je suis totalement d'accord. T'as une observation à faire dessus, Asna ?
Moi, je dirais juste que peut-être qu'il faudrait peut-être plus expliquer les chiffres que les médias balancent pour pas faire culpabiliser et que pour le commun des mortels qui n'est pas scientifique comprenne ce que ça veut dire. Ce qu'ils essayent de ressortir avec leurs chiffres en disant que la couche d'ozone a un trou de tel diamètre, peut-être expliquer qu'est-ce que c'est l'ozone, ça a quoi comme conséquence, et est-ce que ça a un réel impact ou non. Et pareil pour l'augmentation des températures ou non. Et peut-être expliquer et vulgariser en même temps qu'ils donnent l'information critique qui est réelle, mais expliquer plus facilement comme si c'était à des enfants, mais pour des adultes.
Ouais, je trouve que oui, la sensibilisation, elle doit adapter son discours aux personnes en face d'elle et surtout permettre d'avoir vraiment l'information qui passe. Ça, je pense que c'est le plus gros défi de chacun. N'hésitez pas à poser vos questions sur les jeunes, le climat, au 04 91 08 28 10. On va bientôt lancer la musique, oui. Et après, on parlera des grandes instances et la place des jeunes dans toute cette question climatique. Donc, il y en a une de vous qui veut parler de la musique ou... Ouais, non, ok. On s'est en fait décidé en venant et en affrontant la pluie, on s'est dit on va lanceruun petit Michael Jackson, Heart Song. Je trouve que c'était une chanson qui...
Sunrise, what about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop this notice, this crying earth, this weeping shore?
se retrouve pour cette émission de psychodébat sur le thème des jeunes face au climat. Donc dans la première partie, on avait parlé beaucoup de l'éducation, de la sensibilisation et de notre vision sur la sensibilisation du climat et des jeunes, mais aussi comment ils y faisaient face et les différentes attitudes qu'on pouvait observer chez les jeunes. Donc on a fait cette émission dans le cadre de la COP30 qui va avoir lieu la semaine prochaine au Brésil, au cœur de l'Amazonie. Donc cette année, on va avoir une COP assez différente des précédentes. Et là-bas, on va avoir plus de 50 000 personnes qui vont se rassembler provenant de plus de 197 pays. Et la question qu'on peut se poser dans un premier temps, c'est quelle place ont les jeunes dans le discours du climat, qui va rassembler les grandes instances, mais aussi, et malheureusement aussi, les lobbyistes. Donc on en compte plus de 1700 accrédités, par exemple. Et quand on se retrouve face aux grands pollueurs qui participent à un rassemblement pour le climat, on peut se poser des questions et aussi se demander quelle place a la population dans ce type de rassemblement. Donc vous, en tant que jeune, est-ce que vous savez si les gens sont sensibilisés à ces grands rassemblements, donc à ces COP? Et j'aimerais savoir quel est votre avis et surtout aussi si vous pensez que c'est assez relayé ou pas.
Alors, moi, toujours dans le contexte de l'interview que j'ai fait avec plusieurs jeunes, la plupart ne savaient pas que la COP existait, alors que ça fait c'est la 30e édition qu'on a là. Et ils trouvaient ça assez choquant de ne pas en avoir entendu parler de près ou de loin, alors qu'il y a quand même des grosses décisions qui sont faites pour l'environnement et le climat. Je ne sais pas où est-ce que ça a pu cafouiller dans la communication de cet événement, qui est quand même assez important. Et du coup, je pense que ça entraîne un manque de prise de parole des jeunes à la COP, justement parce qu'on ne les informe pas assez. On leur impose pas assez l'information, que ce soit en réel par le corps professoral ou alors par des affiches, bon, c'est un autre moyen peut-être, ou par des événements environnementaux.
Et toi, Angelina, est-ce que...
Je suis tout à fait d'accord et je pense même que ça va plus loin que ça. Je pense que c'est... Il y a carrément une sorte de déconnexion beaucoup plus marquée que les jeunes ou même la population en général a avec les décisions publiques, la politique en général. Enfin, même juste quand on voit le taux d'abstinence aux élections,
oui,
présidentielles, municipales, n'importe. En fait, il y a beaucoup plus d'abstention qu'avant. Et ça, c'est hyper parlant, en fait. C'est que je pense que les gens ne se sentent plus concernés, ne se sentent plus comme ayant du pouvoir ou potentiellement ayant un impact sur ce qui se passe dans l'actualité. Et c'est sûr que l'information, le fait d'être forcé à être informé, forcément, il y a une réaction derrière. Et du coup, forcément, ça peut initier un mouvement où... quand il y a une émotion, en fait, il y a forcément une réaction, une action qui peut se mettre en place, quoi.
Oui, c'est vrai que je trouve qu'il y a une grande dissonance entre la première partie de cette émission où on a beaucoup parlé du fait que les jeunes se sentent concernés, ont de l'inquiétude, se sentent fatalistes face à cette situation et qui sont très peu considérés dans le plus grand rassemblement mondial sur le climat, où on essaie de coordonner, de négocier des changements qui les concernent eux, qui soient aussi peu représentés, c'est très compliqué. C'est vrai que ça entraîne beaucoup de limitations, parce qu'on se retrouve avec des gens qui vont parler pour d'autres. Est-ce que ça peut même rendre moins impactante la parole des gens très concernés? Quand je parlais tout à l'heure de justice climatique, elle ne peut pas se dissocier de la justice sociale. Donc on a aussi cette part-là où ce n'est pas très équilibré aussi selon la provenance dans le monde des gens, parce que la plupart des pays se rassemblent, mais après les accords ne sont pas faits entre tous les pays de la même manière. Il y a plusieurs promesses et plusieurs idées qui sont partagées et des actions qui doivent être mises en place. Comme par exemple, on parle de différents objectifs, comme sortir du charbon par exemple en 2030, et on se retrouve avec plus de 500 usines en cours de construction dans différents pays. Donc c'est vrai que c'est un lieu qui donne... qui est censé donner une espèce de, une union et une égalité face à un bien commun. et c'est pas forcément la description qu'on a dans les retours des gens qui y participent et des gens qui l'observent. Voilà, moi je voulais savoir quelle est aussi vous, votre position personnelle. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a d'autres choses qui pourraient être mises en place pour avoir justement une plus forte participation de la vie des jeunes dans ce genre d'événements?
Moi, je penserais que déjà, plus laisser la parole aux jeunes directement et les laisser prendre des décisions sans forcément les contredire. Je pense que ça serait un bon point là-dessus. Et en plus, je sais qu'il y a plusieurs associations, une à Marfin, et qui vont faire des vidéos de demandes de jeunes pour la COP. Et je pense que c'est une très bonne initiative de faire ça. Ça permet d'imposer aux décisionnaires ce que les jeunes ressentent en vidéo face à eux. C'est très court. Et on se rend compte qu'on a beau interroger une vingtaine de jeunes, il y a toujours le même message qui ressort. Donc à un moment donné, à force de répéter, ça va finir par s'imprimer dans leur cerveau et ils vont croire que ça vient d'eux et pas des jeunes. Je pense que c'est de ça qu'ils ont peur, surtout au niveau décisionnaire, que ça vienne pas d'eux les idées.
Oui, et toi Angelina, comment penses-tu que la place des jeunes devrait être recentralisée par exemple dans ce genre de débat, c'est un peu compliqué, de ce genre d'événement?
Je pense que déjà, je ne sais pas si c'est fait en soi, mais de laisser une place, un quota d'associations représentant des jeunes qui sont engagés pour le climat ou ce genre de mesures, ça pourrait déjà être un bon pas en avant dans la prise en compte des opinions de jeunes. Et après, je pense que même à échelle locale, en fait, il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites et où, en fait, je vais dire un truc, ça n'a pas trop de rapport, mais par exemple, dans les commissions locales de l'eau, où il y a plein de décisions qui sont faites sur la gestion, la répartition des ressources en eau, du coup, et la moyenne d'âge, c'est, 60, 70 ans, et c'est que des personnes qui sont retraitées, souvent qui sont élues. Et en fait, on se rend compte que c'est ça, mais dans un peu toutes les sphères de l'environnement, enfin les sphères politiques, on va dire, de l'environnement, du climat, etc. En fait, ça va être beaucoup des gens qui ont le temps, mais du coup qui sont pas représentatifs de
l'ensemble de la population,
de la population, et surtout pas des jeunes, parce que eux, leur avenir, je veux pas être méchante, mais c'est pas eux qui vont subir toutes les répercussions en fait de ce qu'on fait actuellement, donc c'est pas la même portée en fait dans le discours.
Oui. Et même ils ont une vision plus arriérée parfois.
Oui, voilà,
qui est même pas à jour.
C'est ça.
C'est sûr, oui, c'est ça. En fait, je pense que c'est important de recentraliser la décision. Et c'est vrai qu'on oublie que parfois, à la base, la politique est censée représenter le peuple. Enfin, comment elle a été vendue. Et on a l'impression que c'est un combat de boxe entre les idées qu'ont le peuple et les idées des gens qui sont censés les représenter. C'est important de laisser la parole citoyenne libre et de permettre d'avoir des espaces. Je sais par exemple, récemment, la ville de Marseille a permis à des jeunes de s'entraîner à faire des plaidoyers sur le climat et qui pourront être utilisés dans le cadre de la COP, mais c'est des initiatives qui doivent être faites à très grande échelle, je pense, pour qu'il y ait un impact, parce que c'est la force du nombre. On est obligé de passer par là. Moi-même, je coordonne un peu des événements jeunes que ce soit dans le cadre de la COP ou même à l'extérieur, tout au long de l'année. Et c'est la force du nombre à chaque fois qui fait bouger les choses quand il y a des alliances entre différentes régions, différents pays, parce que je le fais un peu à l'international. C'est ça qui permet de vraiment faire bouger les choses. Et quand, en fait, quand il y a un mouvement qui se fait de manière citoyenne, ça force les autorités locales à rentrer dedans parce qu'ils ne peuvent pas laisser les choses se faire toutes seules. Et donc ça permet parfois d'inclure des lois, de lancer des projets, d'avoir des financements, parce que c'est vraiment ça qui se pose comme problème. D'ailleurs, au cours de cette COP, le financement, c'est une grande chose qui est posée, et parfois c'est le lieu pour demander des financements pour des causes climatiques. Mais le problème, c'est que c'est aussi un lieu de promesses, et l'action qu'on suit d'année en année ne suit pas le cahier de charge qu'on s'est laissé l'année suivante. Donc c'est compliqué d'avoir un serrage de main. Je pense qu'on devrait être dans un truc un peu plus sévère du côté des gens qui sont acteurs directs des choses comme ça, et de pouvoir permettre aussi d'avoir un truc de compte à rendre, parce que c'est une réalité. Il y a une urgence, et c'est les gens qui sont présents qui font justement les promesses de bonne image, comme j'aimerais le dire, mais qui ne permettent pas du coup de faire avancer, et qui reculent aussi les gens qui ont les idées et l'envie, mais qui n'ont justement pas les financements. Parce que moi, c'est le retour que j'ai beaucoup avec les jeunes avec lesquels je parle, c'est que les idées, elles sont là, les gens, en fait, ça impacte leur vie au quotidien. Nous, on a parlé un peu de notre jeunesse, etc. Et manger local, faire un potager... C'est des choses qu'il faut mettre en place et montrer aux enfants comment les choses peuvent se faire. Mais il y a d'autres urgences climatiques dont nous, on n'a pas conscience parce que ce n'est pas notre réalité. Et c'est important de laisser les gens qui ont cette urgence climatique pouvoir agir, en fait. Et pouvoir agir, malheureusement, c'est aussi avoir les moyens financiers, le temps, et être activiste dans certains endroits, ça peut être très répréhensible. Donc parfois c'est des causes qui sont le quart de ce que nous on pourrait faire, mais qui n'est pas possible d'être fait pour parce qu'ils sont stoppés directement. C'est se mettre en danger aussi parfois, juste propager l'information, c'est se mettre en danger parfois. Donc il y a des choses comme ça qu'il faut prendre en compte, et qu'on n'est pas du tout équitable, donc on peut pas s'asseoir autour d'une table et tous parler et se dire en sortant du truc, on a chacun notre truc à faire, et c'est exactement la même chose. Il faut vraiment aller au cas par cas et selon la situation, que parfois c'est des nécessités de survie, que des actions climatiques sont aussi des nécessités de survie, que ça impacte l'habitation, le mode de vie, la manière... outre de consommer, mais de consommer proprement et de pouvoir vivre dignement. Donc on ne se pose pas les mêmes questions de la même manière. Et la jeunesse, c'est un grand mot pour dire le futur. C'est pas seulement de nous qu'on parle. Quand on parle de la jeunesse, c'est aussi de ce qui va arriver après, parce que nous aussi, après, on sera peut-être un peu dépassés. En fait, tout peut arriver. Il faut vraiment se dire que les choses avanceront avec nous. Et il ne faut pas que ce soit malgré nous ou malgré les choses qui se passent autour de nous. On commence à aller sur les derniers quarts d'heure de cette émission. On va avoir Angelina qui va nous quitter. Mais j'aimerais, avant... essayer de finir sur une note un peu plus positive, et de partager chacune autour de vous, enfin, si vous avez observé des trucs autour de vous qui vous donnent un sentiment positif de la jeunesse face au climat, ou même alors juste donner une idée d'un truc que vous penserez intéressant de la jeunesse face au climat.
Alors, je sais pas, enfin, je sais qu'il y a des jeunes qui sont engagés dans ce truc-là, mais moi, il y a des vidéos YouTube que je regarde des fois. Il y a une chaîne en particulier, ça s'appelle Mossy Earth, je crois, et où en fait, c'est des mini-reportages sur des actions qui ont été faites, et ils sont appelés partout dans le monde Et en fait, ils font des trucs mais incroyables avec des moyens. Enfin, certes, ça coûte beaucoup d'argent et heureusement, bah, ils ont grave pris de l'ampleur. Et du coup, ils peuvent se permettre d'avoir des projets de plus en plus impressionnants et importants. Mais ça, je trouve que c'est hyper important, en fait, de bah, comme on n'a pas les informations naturellement sur ce qui est fait, sur les avancées, etc., et bah, d'aller identifier quelques chaînes, quelques ressources où on sait qu'il y a des informations positives qui sont relayées et où il y a des projets qui sont faits, où il y a des actions, enfin des impacts vraiment positifs, mais c'est hyper important parce que sinon c'est très très facile, je trouve, d'oublier et de se dire que en fait rien n'avancera, qu'il n'y a rien qui peut être fait et qu'on n'a pas d'impact à notre échelle alors que. Mais en fait, il y a des projets qui fonctionnent très bien, quoi.
Oui. Et toi, Asna, est-ce que tu as soit des idées ou alors des choses que tu aurais pu observer qui te donnent une lueur d'espoir dans ce discours très fataliste qu'on a eu et que, bah, on était obligé d'exposer aussi ce qui se passe réellement et les limites un peu de ces rassemblements où, on le répète, plus de 1700 lobbyistes ont une accréditation.
Moi, j'ai pas vraiment d'exemple particulier qui me vient maintenant. Par contre, j'ai pu observer que quand on demande aux jeunes de se rassembler pour une cause écologique, ils répondent à l'appel et ils vont agir même s'il n'y a pas de moyens derrière. Donc, ils vont quand même agir, même si financièrement parlant, derrière, ça va pas suivre. Et ils vont faire quelque chose, ils vont se rassembler et ils vont tout faire pour faire entendre leur voix d'une manière ou d'une autre.
Ouais. Je trouve que tu as totalement raison. En exemple, on a simplement le fait que nous trois, on soit en service civique. c'est ben, du quasi bénévolat, puisque c'est une gratification. Et je pense que chacune, pour des raisons différentes et avec un passé différent et des idées différentes, on avait à cœur d'avoir une mission impactante dans le climat. On peut parler aussi du réseau Climat Jeunesse. Donc bon, ça, on en parle depuis un peu de manière sous-jacente dans tout le long de cette émission. Mais c'est des rassemblements de jeunes à l'international dans la francophonie. Donc ça, c'est un pavillon qui existe à la COP, qui est un peu différent du reste des pavillons et qui permet d'avoir des jeunes et d'avoir la parole des jeunes mis en avant. On a aussi des grandes instituts qui permet d'avoir des gros projets de jeunes avec comme thème principal le climat. Et à Marseille, on a pu aussi observer cette année le lancement de la Slow Fashion Week. Donc c'était une fashion week un peu, mais avec beaucoup d'informations et de créateurs qui étaient sensibilisés et qui avaient un aspect sur le climat et la protection de l'environnement dans leur création et leur manière de voir la mode. Et ça se différencie beaucoup, par exemple, de la nouvelle enseigne qui existe maintenant à Paris et qui est donc la fast fashion à son paroxysme. Donc parfois, on a l'impression d'avancer et de reculer. C'est un peu compliqué de voir des politiques faire avancer les choses, des initiatives jeunes faire avancer les choses et de voir une espèce de régression. Mais dans ça, moi j'avais beaucoup ce reproche des jeunes dans cette histoire. Mais au final, quand on regarde les reportages, c'est pas forcément les jeunes qui se sont rués sur les achats. Est-ce que, Asna, toi, tu as pu observer et quel est ton avis? Est-ce que tu penses que c'est parce que les jeunes sont plus sensibilisés? Et est-ce que tu avais l'impression du coup que les gens qui étaient venus étaient des gens, du coup, moins sensibilisés que le reste de la population?
Moi, j'ai pu l'observer qu'il n'y avait pas vraiment de jeunes dans la file d'attente de cette ultra fast fashion qui a ouvert à Paris et qu'à contrario, c'était les jeunes qui manifestaient et qui avaient des pancartes pour dire que bah, les conditions de travail déjà d'une sont horribles, mais qu'en plus, ça a un impact écologique mais énorme. Et en fait, c'était vraiment beaucoup d'adultes. Quand je dis adultes, je veux dire des quarantenaires, cinquantenaires qui étaient là, qui faisaient la file d'attente parce que pour eux, c'était juste... ben, la terre leur appartient plus. et du coup ils y pensent plus. Je pense pas que ça soit un manque de sensibilisation, mais c'est juste que c'est tellement dégradé pour eux qu'ils y pensent plus parce que ça sera pas pour eux.
Ouais, il y a un détachement total et une envie de surconsommation à l'extrême, de vouloir posséder un maximum. Moi là je suis sur un projet de mode et d'environnement, donc je me renseigne beaucoup et j'ai vu qu'il y avait pas mal d'initiatives. Il y avait des trucs un peu comme où les gens donnaient leurs vêtements, donc il y a aussi ça avec les objets. Il y a beaucoup de choses de dons. On avait fait une émission sur le style, trouver son style, et donc on avait aussi parlé beaucoup de l'achat en seconde main et aussi des limites, parce que maintenant on se retrouve à avoir un problème social sur le rachat en seconde main, parce qu'on se retrouve avec des prix exorbitants alors qu'avant c'était aussi un moyen pour les populations les plus précaires de s'habiller. Et je trouve qu'il ne faut pas se perdre dans vouloir rendre une élite dans l'achat de seconde main, parce qu'on se retrouve aussi avec des gens où c'était le seul moyen de s'habiller, et du coup ça les fait se détourner vers des magasins avec une éthique beaucoup moins... Oui, vas-y Asna, je t'en prie.
Après, il y a aussi le souci des tailles.
Oui.
Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui commentent sur l'ultra fast fashion parce qu'il y a des belles pièces, entre guillemets, pour toutes les tailles, ce qu'on ne propose pas en magasin classique.
C'est sûr, oui. J'allais y venir. Non, mais c'est une très bonne chose que ce soit toi qui aies fait, parce que je voulais que la conversation se fasse. Et je suis très contente que tu aies fait cette remarque-là. Mais c'est vrai qu'on ne prend pas forcément en compte toute la population dans la mode en général aussi. Et donc cette population délaissée, elle va chercher ailleurs. Et ailleurs, ce n'est pas forcément meilleur dans d'autres aspects. Donc je pense que là, la problématique, elle se pose. Même justement dans la manière dont sont traités les gens, dans la mode en général, et que ça rend les choses beaucoup moins accessibles, ou alors à des prix... Et voilà, c'est ça. Donc ça devient très compliqué aussi de raisonner ces personnes-là en leur disant bah non, tu ne fais pas, alors que la volonté, c'est de vouloir faire comme tout le monde. En fait, je pense qu'il y a un truc de vouloir rentrer dans un moule et pouvoir être tranquille,
c'est ça,
de ne pas se prendre la tête.
Aussi de se sentir bien
oui.
dans ses vêtements,
exactement.
À minima.
Oui, il y avait, j'avais vu un reportage où il y avait quelqu'un qui parlait d'un sentiment de dignité quand on s'habille, et c'est vrai que c'est un impact psychologique. D'ailleurs, on avait fait une émission sur la psychologie de comment on s'habille et comment choisir son style. Mais quand on n'a pas de liberté ou justement de choix et de possibilités sur comment s'habiller, ça peut avoir un impact sur la vision qu'on a de soi-même et donc sur son bien-être. Et voilà, donc je pense qu'il ne faut pas taper sur les doigts des gens, mais vraiment voir plus grand et continuer à dire, à prêcher la bonne parole, j'allais dire. Mais c'est sûr qu'il faut laisser le temps à parfois certaines personnes. Et comme je disais tout à l'heure, la justice climatique, elle se fait à différents embouchements. Donc il y a aussi ce truc de se dire qu'il ne faut pas négliger les petites actions. Il ne faut pas négliger aussi les petits rassemblements. En fait, tout compte. Je pense que c'est ça qui le message qu'il faut faire passer dans le climat, c'est que toutes les actions comptent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Mais ouais, mais si en haut on ne fait rien, je ne fais rien en bas », c'est pas comme ça que ça fonctionne.
C'est vrai. Et aussi ne pas taper sur les doigts, comme tu disais. Et donc, au lieu de taper sur les doigts, donner la bonne alternative si on en a une.
Oui. Enfin, je pense que c'est ça le discours, c'est, c'est comme un enfant, en fait, on est des êtres humains avec des désirs et des envies, et il faut montrer des alternatives et montrer des bonnes alternatives surtout, et que ce soit dans tous les domaines, mais d'autant plus dans le climat, parce que je pense que c'est la meilleure manière d'instaurer des vraies habitudes. Et continuer à éduquer les jeunes. Et je pense que le message de la jeunesse et de la jeunesse face au climat, je pense que c'est intéressant d'avoir des jeunes qui ont la connaissance, parce que se retrouver avec juste des gens en haut qui expliquent aux gens, plus pas enfin, avoir ce truc ascendant, je trouve que c'est pas la meilleure chose, mais créer des tables rondes, créer des discussions plus ou moins supervisées, mais trouver un moyen de libérer la parole et de permettre aux gens aussi de s'exprimer et de pouvoir poser des questions. Parce qu'après, ça peut être compliqué c'est parfois vrai. De se dire quelles questions je pose ou pas. Je pense qu'on va finir cette émission. On rentre sur les 3 dernières minutes. On va bientôt lancer le générique. Mais n'hésitez surtout pas à venir la semaine prochaine à 18h. On parlera d'un thème différent, sans doute. Et on sera un peu plus. On essaiera de créer encore une conversation conviviale. J'ai beaucoup aimé cette émission. Elle me tenait à cœur. Vraiment, l'important, c'est de rester informé. Et de ne pas culpabiliser, mais d'être dans l'action et de trouver des moyens d'être dans l'action. Donc il y a toujours des associations et des choses qui sont faites. Donc l'important, c'est d'observer. Donc on se laisse sur ça on va lancer le générique. Mais à la semaine prochaine pour un nouveau psychodébat.
I see this kind of psychedelic.